France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, remonte le temps, Rimbaud-Verlaine, le procès de Bruxelles. Le 25 octobre 1873, le poète parisien Paul Verlaine est incarcéré à la prison de Mons, en Belgique, pour coups et blessures volontaires sur la personne d'Arthur Rimbaud. Il s'agit là du plus célèbre coup de feu de la littérature française. Mais la peine est sévère, 2 ans de prison, 200 francs d'amende. Car le magistrat en charge de l'affaire n'apprécie guère les poètes, et encore moins les poètes mariés qui flirtent avec l'homosexualité. C'est donc leur façon de vivre, tumultueuse et bohème, qui va s'appliquer à détruire, mettant fin ainsi à l'un des couples les plus importants de la littérature française. Mais comment comprendre que Verlaine, connu pour son caractère faible, ait pu tirer 2 coups de feu sur l'homme dont il était follement amoureux? En quoi ce procès a-t-il bouleversé l'œuvre des deux poètes qui, dès leur séparation, ont pris des chemins diamétralement opposés, mais tout aussi solaires? Notre invité aujourd'hui, Frédéric Martel, journaliste et producteur de l'émission Soft Power sur France Culture. Il a écrit de nombreux livres consacrés à l'histoire de l'homosexualité et préfacé l'ouvrage intitulé « La vraie vie est absente » paru chez Point en 2021. Affaires sensibles, une émission de France Inter. Récit documentaire Sophie Bobert, rédaction en chef Franck Cognard, chargée de programme Rebecca Donnante, réalisation Juliette Gou.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Paris, 7 juillet 1872. L'homme qui descend les marches de l'hôtel particulier est accablé. Il passe devant l'appartement de ses beaux-parents et des mots terribles traversent son esprit. Il pense « Quelle guigne, cette Mathilde ! Vraiment, la vie de ménage m'est odieuse !» Mathilde, c'est donc sa femme. Et en ce dimanche matin, elle est souffrante. Elle lui a donc demandé de trouver un médecin ou un médicament. Le problème, c'est qu'il ne peut plus la supporter. Ses minauderies, ses manières bourgeoises, et même Georges, leur fils, lui est devenu pénible. En somme, l'homme est à bout de nerfs. Il a 28 ans et il sent bien que sa vie lui échappe. Trop de pression, trop de critiques. Alors parfois, c'est vrai, il exagère, comme le soir où il a failli l'étrangler alors qu'elle était enceinte, ou lorsqu'il a jeté bébé Georges contre un mur. En vérité, c'est l'absinthe qui le rend fou. L'absinthe. Parlez-en à Van Gogh, Degas, Gauguin, eux aussi ont bien déjanté avec ça. Et c'est bien cet alcool qui lui fait voir tout en noir à ce pauvre Verlaine. Son mariage, son physique étrange, son enfance traumatisante. Explication avec Hippolyte Romain dans le journal Marianne.
À l'état civil, Paul Verlaine est un grand garçon de culture et de position solidement embourgeoisée. Le père, militaire, bureaucrate, est un rentier aisé. Sa femme, Elisa Dehaye, de même extraction, passera sa vie à idolâtrer son fils unique, qui est d'une laideur rare. Et elle gardera les fœtus de ses fausses couches dans des bocaux d'alcool placés au-dessus de l'armoire familiale. Verlaine, au front trop large, à la calvitie rapide, aux yeux bridés et à l'allure molle d'un dandy égaré, est affublé d'une sensualité ravageuse. Un peu lâche, faible, un bon mariage devait le poser. Or, sitôt épousé, loi blanche, la douce Mathilde Mottet découvre que l'époux n'a de goût que pour l'absinthe.
Et comme d'habitude, après avoir bu, il culpabilise. Car cette Mathilde, que chaque jour il dénigre, il l'avait bien aimée lorsqu'il l'avait rencontrée. Elle était sa toute gentille brunette. Et il appréciait le fait qu'elle soit la demi-sœur de son ami Charles de Sivry. Un personnage haut en couleur, ce Charles. Directeur du Bal Robert, boulevard de Rochechouart, et membre comme lui du cercle des vilains bonhommes, composé de poètes parnassiens. C'était chic, et comme la vie paraissait simple alors. Ce mariage était si prometteur, ses beaux-parents si cultivés. Bien qu'ils hésitaient, les vrais, à accepter leur union, car ils s'interrogeaient. Mathilde avec ce poète, vraiment, sa situation est bien précaire. Mais du haut de ses 17 ans, Mathilde avait insisté, il s'agit tout de même de Paul Verlaine. Elle était flattée qu'il lui écrive des poèmes. 2 ans plus tard, hélas, tout change. L'enfant est là. Et s'il n'y avait que l'enfant, il y a surtout lui, Rimbaud, qui est entré dans sa vie. Rimbaud, un ange, de 10 ans son cadet. Il occupe toutes ses pensées. avec lui, ce n'est plus l'évasion dans le langage, mais par le langage. Alors, comment se défaire d'un tel génie ? Parallèlement, la présence de Mathilde lui paraît tellement insipide. Ses amis du Parnasse ont eu beau le prévenir, les chroniqueurs se moquaient de lui. Il est comme ensorcelé par le jeune poète. Mais où cette histoire le mènera-t-il ? Jour et nuit, Verlaine s'interroge. Mais ne serait-ce pas lui, là, qui longe la rue Nicolet ? Cette allure désinvolte, ces cheveux blonds en bataille, cette beauté du diable qui avance. Mais oui, c'est bien lui. C'est Rimbaud qui dit à Verlaine « J'allais chez toi ». Et soudain, Verlaine blêmit. Car chez lui, il y a Mathilde qui est malade, le petit qui fait la sieste. Et à l'étage du dessous, il y a les beaux-parents qui l'exècrent. Mais Rimbaud ne veut pas monter, non ? Il est venu dans le seul but de l'enlever à sa famille. Comprenez ? Ça fait 6 mois qu'il palabre, qu'il se cache, qu'il se cherche. Ça suffit. La suite, c'est Charles de Saint-Sauveur qui la raconte dans le Parisien.
Il lui explique qu'il en a assez de Paris, qu'il part à Bruxelles, là, tout de suite, mais avec lui. Verlaine balbutie, proteste, parle de sa femme malade, du médecin, de son fils. Mais comme à chaque fois, le magnétisme renversant de Rimbaud lui fait perdre le nord. Laisse-nous tranquille avec ta femme. Viens, je te dis, on s'en va. Alors, ce dimanche 7 juillet 1872, sans même avoir résisté, Verlaine plaque tout. Mathilde, sa jeune épouse de 19 ans, Georges, son fils de 7 mois, Paris, où, à 28 ans, le brillant auteur des poèmes saturniens s'est fait un nom. À Bruxelles, les deux amants s'installent au grand hôtel liégeois, enfin libres de toute attache. Ils écument les cafés, mènent une vie de bohème, sympathisent avec le petit peuple d'insurgés qui s'est exilé un an plus tôt en Belgique, après la chute de la Commune.
Que de folie dans le lit de Rimbaud, et quelle joie de vivre en Belgique. Bruxelles est une ville en pleine expansion démographique, elle est très tolérante. Baudelaire lui-même l'avait écrit 10 ans auparavant. C'est la coutume à Bruxelles, toutes les soirées finissent dans un établissement de tolérance. Voilà pourquoi, loin de Paris, enfin Verlaine respire. Sauf lorsque la culpabilité le taraude. Car enfin, que peut bien penser Mathilde, hein ? Alors, un jour de scrupule, il lui envoie ces mots. « Ma pauvre Mathilde, n'aie pas de chagrin, ne pleure pas. Je fais un mauvais rêve, je reviendrai un jour. » Des mots qui attisent l'espoir de la jeune fille, qui soudain débarque à Bruxelles, flanquée de sa mère. « Bon, allez, maintenant ça suffit, tu rentres à la maison. » Et voilà que sous le regard courroucé des deux femmes, Verlaine flanche, la mort dans l'âme. Oui, il les suit jusqu'à la gare, donc retour à la case départ. Sauf qu'arrivé à la frontière de Quiévrain, et tandis qu'ils doivent changer de train, tel un diable sorti d'une boîte, Rimbaud ressurgit. Et à nouveau, Verlaine vacille. L'emprise est décidément trop forte. Alors, retour à Bruxelles, aux côtés de son amant, d'où il envoie ses mots cruels à Mathilde.
Misérable fée carotte, princesse souris, punaise qu'attendent les deux doigts et le pot. Vous m'avez fait tout, et vous avez peut-être tué le cœur de mon ami. Je rejoins Rimbaud, s'il veut encore de moi, après cette trahison que vous m'avez fait faire.
En somme, Verlaine accable Mathilde de sa propre goujaterie. Mais qu'en pense Rimbaud ? Bof, il hausse les épaules. Rien dans cette affaire de choc vraiment. Il en a vu d'autres. À l'âge de 6 ans, son capitaine de père a quitté sa mère après lui avoir fait 5 enfants. Oui, l'homme a préféré s'engager en Algérie et traduire le Coran plutôt que de s'intéresser à ses proches. Et puis, n'a-t-il pas été témoin, Rimbaud, de l'entrée des Prussiens dans Charleville en 1870 ? Tous ces morts, sans parler de la semaine sanglante lors de la Commune de Paris. Quelle existence ! Il a tant fallu fuguer. Alors, pleurnicher sur la petite famille Verlaine ? Non, très peu pour lui. Verlaine l'écoute et peu à peu se laisse convaincre, bercé par ses amours de tigre. Oui, amour de tigre. C'est ainsi qu'il explique à sa mère ce qu'il vit. C'est puissant, mais on n'en sort pas indemne. Le sait-il d'ailleurs lorsqu'il accepte de suivre Rimbaud en Angleterre ? Car en septembre, les voilà effectivement qui embarquent pour Londres, via Ostende. Description de l'épisode par Dominique Bromberger dans Valeurs Actuelles en 2007.
C'est d'abord l'émerveillement. Londres est la plus grande, la plus moderne, la plus cosmopolite des capitales européennes. On n'est jamais aussi bien caché qu'au milieu de la foule. le grouillement des docks, la misère dickensienne de l'East End, l'architecture des ponts, celle du Crystal Palace, tout cela leur paraît incroyablement moderne. Mais Verlaine s'inquiète. Il craint d'être poursuivi pour détournement de mineurs. Et puis, la mère de Rimbaud envoie de l'argent en intimant à son fils l'ordre de rentrer. Leur couple commence à faire jaser.
Il se trouve que leur logeuse les a vite flanqués dehors. Trop de beuveries, trop de sexe, trop de cris. Alors va pour cette pauvre maison du 8 Royal College Street, derrière la gare de Saint-Pancras, où la vie n'est pas facile. Tourmenté par le procès en séparation de corps et de biens que désormais Mathilde lui intente, Verlaine est en pleine crise de conscience. Des atermoiements qui exaspèrent Rimbaud et qui poussent Verlaine à le rassurer. « Frérot, j'ai bien des choses à te dire. Tu seras content de ta vieille truie. » Bon, c'est cru, mais c'est passionné. Sauf qu'un jour, ces mots se retourneront contre lui. Nous y reviendrons. Dans les pâleurs victoriennes, Rimbaud écrit les premiers fragments de ce qui deviendra une saison en enfer, un chef-d'œuvre. Mais il ne peut s'empêcher de se moquer de Verlaine et de sa couardise. Conséquence, chaque jour, Rimbaud devient plus méchant, plus sarcastique. Verlaine ferme les yeux, Verlaine plie. Jusqu'à ce matin du 3 juillet 1873, où tout bascule lorsqu'il rentre du marché, une bouteille dans une main, un hareng dans l'autre. De la fenêtre du premier étage, Rimbaud l'observe et lui lance « Qu'est-ce que t'as l'air con comme ça ?» C'en est trop. Verlaine plie bagage et s'enfuit en Belgique. À bout de nerfs, il lui écrit depuis son ferry.
« Je ne sais si tu seras encore à Londres quand ceci t'arrivera. Tu dois comprendre qu'il me fallait partir, que cette vie violente et de toutes deux scènes sans motif que ta fantaisie ne pouvait m'aller foutre plus. Seulement, comme je t'aimais intensément, au Niçois qui mal y pense, je tiens aussi à te confirmer que si d'ici à 3 jours, je ne suis pas avec ma femme dans des conditions parfaites, je me brûle la gueule. 3 jours d'hôtel, un Rivolvita, ça coûte de là ma pingrerie. Tu devrais me pardonner. Si, comme c'est trop probable, je dois faire cette dernière connerie, je la ferai du moins en brave con. Ma dernière pensée sera pour toi. Veux-tu que je t'embrasse en crevant ? Nous ne nous reverrons plus, en tout cas. »
Rimbaud n'y croit pas une minute. Il sait bien que son amant est lâche. Cependant, il n'a plus un penny et il a besoin de lui. Alors il le supplie.
Reviens. Reviens, cher ami. Seul ami. Reviens. Je te jure que je serai bon. Si j'étais maussade avec toi, c'est une plaisanterie où je me suis entêté. Je m'en repens plus qu'on ne peut dire. Reviens, ce sera bien oublié. Voilà 2 jours que je ne cesse de pleurer. Nous avons vécu 2 ans ensemble pour arriver à cette heure-là. Que vas-tu faire ? Si tu ne veux pas revenir ici, veux-tu que j'aille te retrouver où tu es ? Oui, c'est moi qui ai eu tort. Oh, tu ne m'oublieras pas, dis. Non, tu ne peux pas m'oublier. Moi, je t'ai toujours là. Réponds-moi vite. Je ne puis rester ici plus longtemps. N'écoute que ton bon cœur. Vite, dis si je dois te rejoindre. À toi, toute la vie.
Hélas, Verlaine est vraiment parti. Et le lendemain, voilà qu'il s'installe au grand hôtel liégeois qui avait abrité leurs amours 1 an plus tôt. Se sent-il mieux, loin de Rimbaud ? Pas vraiment. Sa vie est un chemin de croix. C'est donc un homme aux abois qui, soudain, se rend à la légation d'Espagne pour s'informer sur les conditions d'enrôlement dans les troupes carlistes. Bon, fuir dans l'armée, après tout. Pourquoi pas ? Parallèlement, il envoie de nombreuses lettres à ses proches. À Mathilde, tout d'abord, à qui il annonce qu'il mourra si elle ne le rejoint pas sous 3 jours. Puis à sa mère, Elisa, à qui il confie ses envies suicidaires. Confidence qu'il duplique même à Vitali, la mère de Rimbaud. Cette dernière lui répond une longue lettre dans laquelle elle lui rappelle l'infamie du suicide lorsqu'on est père de famille et l'importance de croire en Dieu dans les moments graves. Mais le lendemain, ce n'est pas Mathilde, mais sa propre mère qui débarque, tandis qu'il reçoit une nouvelle lettre de Rimbaud.
Cher ami, tu as tort, cette fois, et très tort. D'abord, rien de positif dans ta lettre. Ta femme ne viendra pas, ou viendra dans 3 mois, 3 ans, que sais-je. Quand t'as claqué, je te connais. Tu vas donc, en attendant ta femme et ta mort, te démener, errer, ennuyer des gens ? Crois-tu que ta vie sera plus agréable avec d'autres que moi ? Réfléchis-y. Ah, certes non. Avec moi seul, tu peux être libre. Et puisque je te jure d'être gentil à l'avenir, que je déplore toute ma part de tort, que j'ai enfin l'esprit net, que je t'aime bien, Si tu ne veux pas revenir ou que je te rejoigne, tu fais un crime et tu t'en repentiras. De longues années, par la perte de toute liberté et des ennuis plus atroces peut-être que tous ceux que tu as éprouvés. Après ça, ressonge à ce que tu étais avant de me connaître.
Ressonge à qui tu étais avant de me connaître. Que c'est humiliant. Mais comment ne pas penser que Rimbaud voit juste lorsqu'il écrit « Tu fais un crime et tu t'en repentiras de longues années ». Le lendemain, l'ange cruel débarque à Bruxelles rejoindre Verlaine, un voyage qui va sceller leur vie.
Oisive jeunesse, à tout asservi, par délicatesse, j'ai perdu ma vie. Ah, que le temps vienne où les cœurs s'éprennent, je me suis dit laisse et qu'on ne te voie, et sans la promesse de plus haute joie, que rien ne t'arrête. Auguste retraite, j'ai tant fait patience qu'à jamais j'oublie. Craintes et souffrances aux cieux sont partis, et la soif malsaine obscurcit mes veines. Ainsi la patrie à l'oubli livrée grandit et fleurit d'encens et d'ivraie au bourdon farouche de sang sale mouche. À mille veuvages de la si pauvre âme qui n'a que l'image de la Notre-Dame, et ce que l'on prie, la Vierge Marie, oisive jeunesse, a tout asservi par délicatesse. J'ai perdu ma vie. Ah, que le temps vienne où les cœurs s'éprennent.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Rimbaud Verlaine.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Que se passe-t-il dans la tête de Verlaine lorsque le 8 juillet 1873, il se retrouve à Bruxelles entouré d'Elisa, sa mère, et de Rimbaud, son amant poète? Il a peur, sans doute. Peur d'une dispute ou que soudain, Mathilde débarque. Il n'a pas tort et il n'a encore rien vu. Il décide alors de changer d'hôtel. Direction la rue des Brasseurs, où l'étrange équipage prend deux chambres, une pour Elisa et une pour les amants, juste à côté. À présent, c'est fait, les deux tigres sont dans la même cage. Inquiétant, oh oui, car rien ne se passe comme prévu, et évidemment, serait-on tenté de dire. Mathilde se fait attendre, Verlaine hésite, comme à son habitude, et Rimbaud s'impatiente, comme à son habitude. Alors ils boivent, comme à leur habitude, jusqu'à ce que soudain, Rimbaud annonce qu'il le quitte définitivement. Non, il n'en peut plus. C'est un homme perdu qui, le lendemain, le 10 juillet 1873, longe la galerie Saint-Hubert. Vers 9h, il entre chez l'armurier Montigny. Pour 23 francs, il acquiert une arme de bourgeois, un pistolet Le Faucheux de 7 mm à 6 coups, niché dans une gaine en cuir, ainsi qu'une boîte de 50 cartouches. Mais pourquoi faire? Se suicider? Tuer quelqu'un? Rimbaud? Mathilde? Lui-même le sait-il. Puis il retourne boire. Il est midi lorsqu'il rentre à l'hôtel et il a l'alcool mauvais. Il ouvre la porte de sa chambre et voit Rimbaud debout contre le mur qui sans doute le regarde de façon éclatante. Alors tout s'enchaîne. Verlaine cale une chaise contre la porte, s'assied dessus, sort son revolver et tire deux fois en criant ces mots « Tiens, je t'apprendrai à vouloir partir ». Le premier coup touche Rimbaud au poignet. Le second ricoche sur la cheminée avant de tomber sur le plancher. La suite, c'est Bernard Moussman qui la raconte dans son livre « Reviens, cher ami ».
Comme la blessure continue de saigner, le trio se rend à l'hôpital Saint-Jean, situé à 20 minutes à pied. Tout pourrait s'arrêter là, une querelle de fauves un peu plus sauvage que les autres. Mais personne n'a songé à reprendre le revolver des mains de Verlaine. Deux heures plus tard, Rimbaud, pensé, il retourne à l'hôtel. Arthur veut s'en aller, maintenant, à Paris, à Charleville, ailleurs. Nouvelle dispute, cette fois, Elisa estime que cela suffit. Elle donne les 20 francs du voyage et ils partent ensemble vers la gare du Midi.
Verlaine et sa mère accompagnent Rimbaud à la gare, mais comme le précise Bernard Moussman, personne n'a songé à reprendre le revolver des mains de Verlaine. Or, arrivé au niveau de la place Roupe, à nouveau Verlaine s'agite et plonge la main dans sa poche où l'arme l'attend. Alors bien sûr, Rimbaud panique. Il court vers un policier, l'agent Auguste Michel, qui les embarque au poste. Là, le commissaire adjoint Joseph Delalle note leur déclaration qu'il trouve confuse. C'est-à-dire que l'un parle de son engagement dans les troupes carlistes, l'autre d'une dispute à Londres à cause d'un hareng, et de la mère et de l'arrivée probable d'une certaine Mathilde. Nébuleux. Quant au mobile, il l'est aussi. Nébuleux. Mais enfin, pourquoi ce dénommé Verlaine a-t-il acheté un revolver? Voulait-il tuer le jeune poète? Et quelles sont les relations, au juste? Dans un soupir, le flic envoie Verlaine à l'Amigo, le lieu de détention des poivreaux, et il lance une procédure en justice. Le lendemain, c'est le juge Théodore Stevens qui prend l'affaire en main. Oh, c'est peu de dire que l'homme n'est pas un poète. Il n'a jamais entendu parler de Rimbaud ni de Verlaine. Il n'aime ni les cafés, ni le théâtre, et encore moins l'idée de s'enivrer. Non, son talon d'Achille à lui, c'est manger des meringues et faire respecter la justice. Voilà pourquoi, par mesure de prévention, il envoie Verlaine à la prison des Carmes et il ouvre une enquête. Nous sommes le 12 juillet 1873 et Ster Stevens se démène. Que cherche-t-il ? Des preuves de l'immoralité du poète, car il en est sûr, c'est bien l'immoralité qui mène au crime. Accompagné des substituts du procureur du roi et d'un greffier, il perquisitionne la chambre d'hôtel des poètes, puis se rend chez l'armurier, puis à l'hôpital Saint-Jean où se trouve Rimbaud. Il l'interroge, fouille son portefeuille, et ce qu'il y trouve dépasse toutes ses espérances. Sous ses yeux, les lettres de Verlaine. Le petit garçon accepte la juste fessée. Aime-moi, tu seras content de ta bonne vieille truie. Et que dire de ce poème, le bon disciple qui flirte avec la pornographie? Ster Stevens sourit. Ça y est, il a des preuves. Mais il sait que l'avocat de Verlaine jouera sur le thème de la fiction et du jeu littéraire entre les deux poètes. L'idéal serait donc d'avoir une preuve physique de leur homosexualité. Alors il demande à deux médecins légistes, les docteurs Semal et Vleemanx, une étude corporelle de Verlaine. Car en cette fin de 19e siècle, on se passionne pour l'anatomie des patients. Et on mesure tout, des crânes jusqu'au sexe. Et Verlaine n'est pas en reste. En tant qu'inculpé, il a droit à une fouille corporelle accompagnée d'une description exacte de ses parties génitales. La conclusion des médecins est sans appel.
De cet examen, il résulte que Paul Verlaine porte sur sa personne des traces d'habitude de pédérastie active et passive. L'une et l'autre de ces deux sortes de vestiges ne sont pas tellement marquées. Il n'y a pas lieu de suspecter des habitudes invétérées et anciennes, mais des pratiques plus ou moins récentes.
Désormais, la condamnation de Verlaine n'est plus qu'une question de temps. Car si l'homosexualité est dépénalisée depuis 1791... la justice belge peut toujours sévir si un désordre social en émane. D'autant que ces poètes ne sont pas belges, mais français, et que la justice française est également sur le coup. Depuis des mois, le père de Mathilde est décidé à détruire l'avenir de Verlaine. Voilà pourquoi, en vue de la demande de séparation de biens et de corps, il fait suivre le poète. Il a même mandaté l'huissier Auguste Martin afin de constater l'adultère. Et puis il y a aussi un certain Lombard, qui procède à des filatures et qui envoie régulièrement ses rapports à la police. Tiens, comme celui-ci, le 26 juin 1873.
Police municipale, 4e brigade de recherche, de Monsieur Lombard, rapporteur, officier de paix. J'ai l'honneur de transmettre à Monsieur le préfet de police des renseignements qui me parviennent sur le compte du nommé Verlaine, qui en fait l'objet. La scène se passe à Bruxelles. Le Parnassien Robert Verlaine était marié depuis 3 ou 4 mois. Le ménage allait assez bien, en dépit des toccades insensées de Verlaine, dont le cerveau est depuis longtemps détraqué, lorsque le malheur amena à Paris un gamin, Rimbaud, originaire de Charleville. Comme morale et comme talent, ce Rimbaud était et est une monstruosité. Il a la mécanique des vers comme personne, seulement ses œuvres sont absolument inintelligibles et repoussantes. Verlaine devint amoureux de Rimbaud, qui partagea sa flamme, et ils allèrent goûter en Belgique la paix du cœur et ce qui s'ensuit. Verlaine avait lâché sa femme, qui pourtant, dit-on, est très aimable et bien élevée.
Et puis il y a Kat, de son vrai nom, Ludomir Matusevitch, un journaliste français exilé à Londres, après la Commune, puis devenu un dick. Il s'est installé à Charlotte Street, à quelques pas des poètes, qui n'imaginent pas une minute qu'il envoie lui aussi ses infos à la préfecture de police. Des rapports défavorables, bien sûr, qui servent de prétexte à la justice belge pour transformer la querelle des poètes en procès correctionnel. Et voilà comment, peu à peu, cet agrégat de notes devient un très méchant dossier. Le 8 août, sur réquisitoire du procureur du roi, Verlaine passe devant la 6e chambre correctionnelle du tribunal. Toutefois, comme l'intention criminelle n'a pas pu être prouvée, et que Rimbaud a explicitement retiré sa plainte, il échappe aux assises. Le juge Sir Stevens se contente donc d'une accusation pour blessure grave sur la personne du dit Rimbaud ayant entraîné une incapacité de travail. Mais en arrière-fond, tout l'accuse. Sa personnalité confuse, sa réputation douteuse, l'incohérence de ses dépositions, ses mœurs contre nature. Et bien sûr, on lui reproche son passé. N'a-t-il pas abandonné son jeune fils au berceau ? Et que dire de son attitude durant la Commune ? Pourtant, Verlaine n'est pas monté sur les barricades, il n'a pas tiré la moindre balle. Non, il a simplement, comme beaucoup d'artistes, partagé une révolte, un certain enthousiasme. Or, Sir Stevens n'aime ni les homosexuels, ni les communards. Rapidement, la sentence tombe. En vertu des articles 398 et 399 du Code pénal belge, Verlaine est condamné à 2 ans de prison et 200 francs d'amende. C'est la peine maximale. À quoi pense-t-il à ce moment-là ? Que Rimbaud va lui manquer ? Sans doute. Son absence est criante au tribunal. En vérité, l'homme aux semelles de vent est déjà parti à Roche, dans la ferme familiale à 40 km au sud de Charleville. Dans le grenier à grains, en quelques jours, il y achève son livre païen qu'il nomme « Une saison en enfer », extrait du chef-d'œuvre.
Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux, et je l'ai trouvée amère, et je l'ai injuriée. Je me suis armé contre la justice, je me suis enfui. Ô sorcière, ô misère, ô haine, c'est à vous que mon trésor a été confié.
C'est à compte d'auteur qu'il envoie son manuscrit à Jacques Pout, le directeur de l'Alliance typographique, une imprimerie de Bruxelles. Clin d'œil à Verlaine. Fin octobre, enfin, le livre est prêt. 54 pages miraculeuses, dont il fixe le prix de vente à 1 franc. Mais problème, il n'a pas assez d'argent pour récupérer la totalité de ses exemplaires. Alors il n'en prend que quelques-uns. Combien ? Certains disent 6, d'autres plus. On ne le saura jamais vraiment. Son idée, en tout cas, est de les envoyer aux Parnassiens, ceux qu'il admirait quand il avait 16 ans. Il est si certain de son succès, car il le sait. Il vient de dynamiter les codes de la poésie classique. Il vient même de créer une nouvelle grammaire. La famille de Mathilde en prendra pour son grade. Et qui sait ? Peut-être que sa gloire atténuera la peine de son pauvre Verlaine. Bon, évidemment, il lui envoie un exemplaire, qu'il dédicace sobrement. Mieux vaut se méfier des gardiens, des indiques de tous ceux qui leur pourrissent la vie. Mais l'accueil des Parnassiens est glacial. Certains ne saisissent pas son génie, d'autres le jalousent ou ne voient en lui qu'un voyou. D'un point de vue officiel, la saison en enfer est un coup d'épée dans l'eau. Dans quelques mois, âgé de 20 ans seulement, Rimbaud cessera définitivement d'écrire. Et tandis qu'il déchante, Verlaine est mis à l'isolement. On le transfère à la prison de Mons, cellule 252, dans un bâtiment aux allures de château fort. La façade est de style Tudor, avec donjon et meurtrière. Les gardiens notent son caractère faible, sa moralité assez bonne et son influence nulle auprès des autres détenus. Est-ce dû à son statut d'homme de lettres, à l'injustice de sa peine? On lui permet d'emprunter des livres, des dictionnaires d'anglais, d'allemand et tout Shakespeare. Et surtout, on le laisse écrire. Et c'est là qu'il y compose ses plus beaux poèmes. L'un d'eux se nomme « Cellulairement ». Mais surtout, il y a ces trois textes qui visent son jeune tigre. Le dernier d'entre eux, « Crimen Amoris », est un long poème qui oppose le bien et le mal. Il y rend hommage au plus beau d'entre tous ces mauvais anges, 16 ans sous sa couronne de fleurs. En vérité, Verlaine expie. C'est un adieu au Satan adolescent qu'il écrit. Un adieu à celui qui l'a entraîné dans des palais de soie et or et dans des fêtes aux 7 péchés. En vérité, à force de fréquenter la chapelle de sa prison, Verlaine est devenu totalement mystique. Explication dans Le Monde du 2 août 2016.
Comme Claudel derrière un pilier de Notre-Dame, Verlaine a une révélation. Fin avril 1874, prenant connaissance du jugement de séparation de corps et de biens avec Mathilde, il réclame l'aumônier qui lui apporte 8 volumes du catéchisme de persévérance de Monseigneur Jean-Joseph Gaume. Un mois plus tard, un matin de juin, une lumière divine inonde sa cellule. Verlaine se prosterne au pied de l'image lithographique du Sacré-Cœur. Le 15 août, jour de l'Assomption, il écrit le poème « Je ne veux plus aimer que ma mère Marie ». Puis en septembre, il produit, final, « Jésus qui sut bénir ma folle indignité ». On est loin du sonnet du trou du cul, composé 2 ans auparavant pour choquer les Parnassiens.
Ah, on en est loin, en effet. Mais s'est-il pour autant défait de son emprise? Pas vraiment. Dès sa sortie de prison, en janvier 1875, il ne peut résister au désir de revoir son mauvais ange. Les retrouvailles ont lieu à Stuttgart, où Rimbaud s'est mis en tête d'apprendre l'allemand. Fébrile, Verlaine se précipite. Espère-t-il une nouvelle échappée avec lui? Possible. Mais surtout, il rêve de partager avec lui sa nouvelle passion, le catholicisme. Hélas, Rimbaud n'adhère pas à ce dieu-là. Preuve en est cette lettre qu'il envoie à son ami Ernest de La Haye, dans laquelle il se flatte d'avoir ébranlé Verlaine dans sa religiosité. Il écrit « Il est arrivé ici l'autre jour un chapelet aux pinces. 3 heures après, on avait renié son Dieu et fait saigner les 98 plaies de notre Seigneur. Passant outre le coup de feu, le procès injuste et la prison, les deux hommes resteront 2 jours et demi ensemble. Puis, ils ne se reverront plus jamais. »
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Rimbaud, Verlaine. Notre invité, Frédéric Martel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et producteur de l'émission Soft Power sur France Culture. Vous avez écrit de nombreux livres consacrés à l'histoire de l'homosexualité et vous vous êtes passionné pour le parcours d'Arthur Rimbaud au point de préfacer ce livre, La vraie vie est absente, livre paru chez Point en 2021. Vous avez aussi ardemment milité en 2020 pour l'entrée de Rimbaud et Verlaine au Panthéon, on en reparlera. Mais d'abord, qu'est-ce qui vous fascine dans cette histoire?
Bah d'abord, vous avez, on a écouté les lectures, tout simplement, magnifiques lectures durant la première partie de l'émission. C'est absolument formidable ce qu'on entend. C'était d'ailleurs très bien lu. On est avec des textes écrits, je pense au cahier des doués, par quelqu'un qui a 16 ans. Les derniers vers, il a 18 ans. Une saison en enfer, il a 19 ans. Illumination, il a 20 ans. Mmh. On est là, ce dont on parle, ce sont les plus beaux vers de l'histoire de notre littérature, de notre langue. Tous les Français les ont lus au collège ou au lycée. Et avec un gamin de 16 ans, 18 ans, 19 ans. Voilà. Par ailleurs, c'est aussi un couple. Le reportage, les reportages l'ont très bien décrit, magnifiquement décrit. Un couple d'écrivains, c'est très rare dans l'histoire de la littérature française. En plus, un couple gay. Il y a quasiment aucun exemple de ce type. On pourrait citer plus récemment, très récemment, d'ailleurs, l'un des deux vient de mourir, Angelo Rinaldi et Hector Bianciotti, qui sont entrés ensemble à l'Académie française, premier couple de l'Académie française. On peut citer les artistes anglais Gilbert and George, mais des couples qui écrivent ou qui peignent ensemble, c'est très rare. Et des couples gays, c'est quasiment inexistant.
Surtout à cette époque-là.
En plus, à cette époque-là. Donc voilà, pour répondre à votre question, c'est tout ça à la fois. Le génie littéraire, l'aventure incroyable, et puis cette histoire inimaginable.
Certains spécialistes disent la rencontre de Rimbaud et Verlaine n'a rien de hasardeux. Partagez-vous ce point de vue? Comment le traduire?
Écoutez, ce dont on parle, ça a eu lieu il y a plus de 150 ans, donc en 1871. En réalité, si vous voulez, lorsqu'on parle de Rimbaud et de Verlaine, je pense qu'il faut toujours se mettre des conditionnels, dire que savons-nous, peut-être, est-ce qu'on sait, cela se peut, saura-t-on jamais. Beaucoup de mystères demeurent. Vous savez, il y a des années complètes, je pense à l'année 1874, 75, 76, on ne sait même pas vraiment ce que fait Rimbaud. On a très peu de lettres. Donc, on est sur une histoire incroyable. On a des preuves, heureusement d'ailleurs, enfin paradoxalement, celle du procès. On a des lettres, on a des documents. Mais beaucoup de mystères restent sur cette relation qui commence, semble-t-il, par une lettre, peut-être deux, que Rimbaud envoie à Verlaine un peu avant l'été 1871. Et celui-ci l'invite à Paris. C'est à peu près tout ce qu'on sait.
Donc, c'est Rimbaud qui prend l'initiative du couple, finalement?
A priori, oui, mais sans doute téléguidé par un ami qu'il a à Charleville-Mézières et qui lui donne l'adresse de Verlaine, parce qu'il ne pouvait pas la découvrir tout seul, sans doute.
Alors, quelle est l'image de Rimbaud et Verlaine auprès des cercles parisiens?
Ce qui est important, c'est qu'il est... il y a plusieurs phases. Il va être d'abord très bien accueilli à l'automne 1871.
Verlaine ou Rimbaud, parce que je vous posais la question pour les deux.
Rimbaud est très bien accueilli à ce moment-là, donc à l'automne 1871, dans le Club des Vilains Bonshommes, grâce à l'entre-gens de Verlaine, qui est à l'époque un poète déjà connu et reconnu, qui fait partie de ces clubs littéraires qui aujourd'hui, évidemment, sont très décryptés, etc., mais qui, à l'époque, sont sans doute assez marginaux. Il passe d'ailleurs d'un club à l'autre, puisqu'il passe de ce club des Vilains Bonshommes à un autre club qui va s'appeler le club zutiste, à ceux qui disent zut, qui disent non, d'une certaine manière. Ça rappellera par la suite, on aura les dadaïstes qui se rapprochent de ça. Il y a d'ailleurs beaucoup de textes qui sont écrits en commun à cette époque par ces gens-là. Donc, on a plutôt un Verlaine, disons, reconnu au moins dans le underground, la contre-culture de l'époque, et Rimbaud, lui, arrive très jeune, quelques poèmes, très peu publiés, d'ailleurs, il faut toujours se rappeler que rien pratiquement n'est publié de son vivant, à part Une saison en enfer que vous avez bien raconté tout à l'heure, et le livre est un flop complet, une dizaine d'exemplaires, pas un article de presse, et personne qui en parle. Donc, l'état d'esprit, c'est ça, rejeté à la fois par l'avant-garde, mais aussi par la classe bourgeoise, évidemment, dont les poèmes de Rimbaud ne sont pas connus, ni même évidemment pas appréciés. Et on est aussi, nous l'oublions pas, juste après la Commune de Paris, qui a eu lieu en 1871. Donc tout ça, si vous voulez, sent le roussi pour prendre une formule de Rimbaud.
Alors ça n'est pas un détail, ça peut paraître un détail comme ça, mais ça, pour nous ça veut dire beaucoup. Il y a l'absinthe, la question de l'absinthe, qui est un peu, je sais pas, le crack ou la coke d'aujourd'hui, qui a fait beaucoup de dégâts. Hein. Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Verlaine, quel rôle joue cet alcool quasi stupéfiant?
Écoutez, il y a beaucoup de textes de preuve comme quoi ils en consomment assez fortement. Je pense qu'il faut, encore une fois, il faut être très prudent. On a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sans doute, mais je pense qu'il ne faut pas exagérer les souleries permanentes. On les a souvent présentées comme étant des vagabonds. C'est un titre d'un des poèmes, d'ailleurs, absolument magnifique d'Illumination. On sait que Rimbaud a fait des fugues, etc. En même temps, ils ont de l'argent, puisque Verlaine a de l'argent à ce moment-là. Et surtout, ils ont toujours habité dans des appartements, notamment à Londres, dans plusieurs appartements qu'on connaît bien, qui sont plutôt des appartements bourgeois du centre-ville, près de Soho, près de Piccadilly Circus. Et ils ne sont pas à la rue, ce ne sont pas des SDF. Donc peut-être ils boivent, mais ils travaillent aussi. Rimbaud, tous les jours, va à la bibliothèque à l'époque du British Museum, où d'ailleurs, au passage, Karl Marx travaille aussi. Et donc, on peut être certain qu'ils se sont rencontrés, mais sans doute, ils ne se sont même pas parlé. Bref, donc voilà, l'alcool joue un rôle qu'il ne faut peut-être pas exagérer. Il y a aussi sans doute un peu de drogue, en tout cas, des petites choses. On est aussi sur des gens qui travaillent. D'ailleurs, Rimbaud, dans une lettre importante, dit au moment où il arrive à Paris, « Je veux travailler libre, il me faut une économie positive. » C'est quoi la clé? C'est pour un poète, c'est à la fois avoir assez d'argent pour vivre, mais assez de temps également pour pouvoir écrire ses poèmes.
On parlait du contexte politique, on vient de terminer la guerre avec les Prussiens, une guerre que les Français ont perdue, et il y a eu aussi la Commune. Est-ce qu'on a reproché à Verlaine sa sympathie pour les communards, et peut-on dire qu'avoir été communard a joué des tours aux artistes?
On peut surtout dire que c'est à cause de la Commune qu'il est surveillé partout, vous l'avez bien raconté, par des indices qui le suivent à Bruxelles, qui le suivent aussi à Londres. Il est complètement espionné, on le sait aujourd'hui par les nombreux documents qui existent à la préfecture de police de Paris, mais aussi on l'a vu à Bruxelles. Et rappelons que les raisons... Il a tiré deux coups de revolver, c'est évidemment pas bien, il a blessé Rimbaud. Celui-ci reste très peu de jours à l'hôpital, Rimbaud retire sa plainte, donc la peine de 2 ans de prison est très exagérée. Pourquoi est-elle exagérée? Pour 2 raisons. D'abord, la Commune de Paris. Il est communard, il est repéré comme communard.
D'accord.
Il faut rappeler que Verlaine est resté à l'hôtel de ville, a travaillé, donc il est réellement communard, ce qui est moins vrai sans doute pour Rimbaud. Et puis l'homosexualité, c'est les 2 éléments.
France Inter. Affaires sensibles.
Frédéric Martel, alors ce procès, j'imagine que dans les cercles littéraires parisiens, c'était la conversation numéro 1. Qu'est-ce qu'on en disait? Comment ça s'est passé à cette époque? Est-ce que ça a mobilisé tout le monde littéraire?
Ça fait que Verlaine... Son nom est sali, il est lui-même en prison, il a été condamné, vous l'avez dit, à 2 ans de prison, il fera un petit peu moins, mais c'est long. Rimbaud lui-même est conspué parce que à la fois on lui reproche cette relation homosexuelle, mais on lui reproche aussi d'avoir contribué à la mise en prison de Verlaine. Mmh. Et d'ailleurs lui-même va repartir, va s'exiler à nouveau avec un nouvel amant, Germain Nouveau. Donc c'est l'échec d'une part d'une relation amoureuse, c'est l'échec aussi malgré tout de la réputation des deux poètes, sachant que Rimbaud va littéralement disparaître et ne pas du tout être reconnu en partie pour cette raison-là.
Alors, concernant la réputation de Verlaine, je voudrais lire quelques mots signés Philippe Solers dans Le Monde des Livres à l'occasion du centenaire de la mort du poète, donc Verlaine. Il dit « À l'enterrement de Verlaine, les discours sont gênés, tarabiscotés. Que dire de lui? Qu'il a fini seul comme un chien atteint d'une cirrhose et d'une syphilis? Qu'il avait tenté sa chance dans un ultime baroud d'honneur à l'Académie française sans recueillir une seule voix? Qu'Anatole France l'avait exclu de son anthologie de la poésie sous prétexte qu'il était indigne. Seul Mallarmé l'avait compris, qui déclara « Il ne se cacha pas du destin ». Qu'est-ce que vous en pensez?
Solers dit exactement ce qu'il faut dire. L'Académie française, pas une voix, mais ça discrédite l'Académie française. Enfin, quels sont les poètes qui étaient à l'époque à l'Académie française ou les écrivains? Je pense qu'on n'en connaît pas beaucoup. Et ils refusent Verlaine. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait très souvent dans l'histoire, de se tromper d'écrivain.
Alors, concernant cette relation entre Verlaine et Rimbaud, il y a des vérités qu'on a essayé de transmettre là dans le récit. Et puis c'est aussi une usine à fantasmes. Il n'y a qu'à voir l'hystérie qui entoure les reliques de leur histoire. On va écouter une archive qui nous raconte la vente, le lundi 2 décembre 2024, d'un petit dessin de Paul Verlaine représentant Arthur Rimbaud, vendu aux enchères 585 000 euros chez Drouot. Écoutons l'expert Ambroise Audouin. Et les experts, Vincent Daroux, les deux, commissaire-priseur de cette vente.
Je pense que c'est un succès d'année de ce que représente Rimbaud, c'est-à-dire l'élan de la jeunesse, de la liberté, de l'irrévérence. Et c'est Rimbaud vraiment dans toute sa splendeur, au moment où il déambule avec ses jambes sans rival, comme disait Verlaine, où il est le plus créatif et le plus visionnaire.
C'est un dessin qui n'est pas apparu sur le marché pendant 150 ans et qui ne réapparaîtra probablement plus non plus. Et c'est ce qui en fait sa rareté et ce qui en fait aussi son prix.
Voilà, ça donne une idée de la folie qui entoure leur histoire.
Oui, absolument, avec un autographe, c'est-à-dire un livre avec la signature de de Rimbaud sur Une saison en enfer donné à Verlaine alors qu'il est en prison, transmis à Verlaine, vendu 500 000 euros, c'est Pierre Leroy qui l'achète. On n'est même pas sûr que la signature soit vraie. Il y a Patti Smith qui rachète une maison de Rimbaud, on sait que c'est pas la bonne. Il y a une inauguration qui a été faite par Roland Dumas d'une maison de Rimbaud à Aden, au Yémen. On pense qu'il s'est trompé de maison, etc. Oui, c'est effectivement un délire et en même temps des fantasmes, mais c'est assez drôle.
Il y a ce que dit aussi Jean-Michel Djian, mot paru dans Le Monde en 2020, il dit « Rimbaud est vite devenu plus que Rimbaud, plus que sa poésie. Cessant d'être poète, il est devenu une star, un extraterrestre. Son mystère est devenu la proie de tous les fantasmes. »
Oui, enfin, je dirais qu'il faut aussi, star, pourquoi pas, mais il faut rester aussi sérieux. Je crois que on est là sur une œuvre considérable. Et donc, certes, il y a comme pour, je ne sais pas, Che Guevara, Mao Tse-tung, ou beaucoup d'autres, des fantasmes et de l'histoire. Après, il faut revenir aux œuvres, il faut lire les poèmes. Par exemple, les Vers nouveaux, ceux de 1872, je pense à L'Arme, à l'Éternité, Âge d'or. Moi, tous les soirs, souvent, avant d'endormir, j'essaye d'en lire un ou un bout de Une saison ou d'Illumination. Voilà. Au-delà des fantasmes, il y a l'œuvre.
Vous êtes plutôt Rimbaud ou Verlaine ? Petite préférence quand même pour l'un ou l'autre ?
100% Rimbaud, bien sûr. Ouais.
Bon. Dernière chose. Qu'avez-vous pensé de la polémique, que vous avez initiée d'ailleurs, autour du projet de panthéoniser Rimbaud et Verlaine ensemble ? Alors, cette histoire a fait les gros titres. On a pu lire des titres comme « Rimbaud et Verlaine, le Panthéon contre l'ordre moral » ou encore « Non au mariage forcé de Rimbaud et Verlaine au Panthéon ». Qu'est-ce que vous en pensez avec le recul ? Parce que vous y êtes pour quelque chose quand même.
Il y a eu deux camps. Il y a eu des gens qui se sont exprimés très violemment contre cette idée. Et puis il y a eu ceux qui l'ont pris pour ce qu'elle était, c'est-à-dire un acte, je dirais, dadaïste, zutiste. On s'est bien amusé. Et je crois qu'il était important aussi, c'est pour terminer peut-être sur une note sérieuse, je crois qu'il y a deux grands non-dits sur Rimbaud qu'on a voulu récupérer souvent. D'une part, comme étant une sorte de figure un peu bourgeoise, alors que c'est un communard. On a voulu en faire une figure religieuse, c'est le travail de Claudel, alors qu'en réalité, pour moi, c'est, en tout cas, c'est plus Rabelais que Claudel. Et puis, il y a la question de l'homosexualité, Verlaine va 2 ans en prison à cause de la commune et de l'homosexualité. C'est le Oscar Wilde français. Et je crois qu'il était important d'essayer de casser ces deux non-dits. Et c'était ça un peu le jeu de cette pétition. On espérait que des gens disent n'importe quoi et écrivent des articles contre cette idée. Ça a été le cas. Et je dois vous dire que l'histoire ne fait que commencer. Vous verrez, on y reviendra.
Peut-être, peut-être. En tout cas, moi j'aime bien votre analogie avec Oscar Wilde.
Vous savez qu'ils sont nés la même année. Oscar Wilde est né en 1854 comme Rimbaud.
Eh bien, ça me fait penser qu'il faudrait qu'on raconte l'histoire du procès d'Oscar Wilde. Voilà. Merci Frédéric Martel, vous serez peut-être avec nous pour ce procès d'Oscar Wilde. Ça vous intéresse, j'imagine.
Moi, je reste surtout sur Rimbaud et je prépare un nouveau livre sur lui. Voilà.
Bon, très bien. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles, Rimbaud-Verlaine, le procès de Bruxelles, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Raphaël Rousseau.